Morning Edition from NPR News.
MCT 三金的好戏.
Halim Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Nicolas Maduro, que l'on engouffre dans un hélicoptère pour le transporter à Manhattan pour son premier rendez-vous devant la justice américaine qui est en cours. Il vient de plaider non coupable, comme prévu. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Elle ressemble à quoi, cette vice-présidente qui prête serment, ou qui l'a déjà fait en tout cas? Est-ce qu'elle est partie pour manger dans la main de Trump? Y a-t-il un scénario optimiste dans cette histoire? On essaiera de le comprendre avec notre invité. Y a-t-il aussi une mollesse européenne face à l'attitude de Trump et comment l'expliquer? C'est ce que fera Frédéric Seyss en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est en Écosse avec un chiffre alarmant. En valeur absolue, il y a plus de morts par overdose en Écosse que dans le reste de la Grande-Bretagne et même plus que dans n'importe quel pays d'Europe. Comment l'expliquer?
Le changement le plus marquant concerne la consommation de benzodiazépines. On est passé de celles prescrites par un médecin à un produit fabriqué illégalement qui est beaucoup plus toxique qu'avant.
Un reportage que vous découvrirez autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Botswana qui invite Moscou à investir dans ses diamants et ses terres rares. Et puis ça va nous faire un bien fou, la BO du monde avec Cyril Sauvageau est de retour, ou les espoirs de retour aussi de la K-pop en Chine, figurez-vous. Le monde est vaste, il est secoué et on n'a pas une heure, allons-y.
You have a vice president who's been appointed by Maduro. She had a long conversation with Marco and she said,
vous avez donc une vice-présidente qui a été nommée par Maduro. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio. Il lui a dit que nous ferions tout ce qui est nécessaire. Je pense qu'elle s'est montrée très aimable, mais elle n'avait pas vraiment le choix. Vous avez reconnu évidemment Donald Trump qui parle. C'était à Palm Beach en Floride samedi. Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes responsable du programme Amérique latine. Vous collaborez aussi au Monde diplomatique. Vous avez coécrit avec Didier Billon « Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde » chez Agon. Je pense que repenser l'ordre du monde, on a vraiment les deux pieds dedans. Est-ce qu'on a une idée, Christophe Ventura, de ce qui se passe réellement en ce moment à Caracas et notamment au Parlement? On voit bien que le frère de la vice-présidente par intérim vient d'être réélu président de l'Assemblée. C'est pas très clair sur sa prise de serment à elle. Et puis surtout pas très clair sur l'ambiance avec cette chose qui est en train de monter et qui dit... Est-ce qu'elle n'aurait pas trahi et facilité l'arrivée des Américains? C'est possible ça ou pas?
Alors il y a beaucoup de choses à Caracas. Ce qui domine, c'est quand même pour l'instant la stupéfaction, la sidération d'avoir essuyé une attaque militaire brutale. Mmh. 150 aéronefs qui sont partis de la Caraïbe, la mer Caraïbe, mais aussi des pays où les Américains peuvent utiliser des infrastructures locales, des aéroports, des bases, etc. pour envoyer ça pour une équipée sauvage, un raid. Mmh. C'est le mot de Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui joue un rôle fondamental en fait. Il n'y a pas que Trump, il y a aussi Marco Rubio. C'est un raid qui a été organisé. Les Vénézuéliens sont surtout sidérés par cela. Parce que de quoi parle-t-on parmi les nombreuses choses? J'en profite pour le dire ici. Ce qui est aussi un précédent, c'est la première fois que les États-Unis attaquent un pays sud-américain. Mmh. Les Américains sont intervenus partout, dans la Caraïbe, dans les pays de insulaires, en Amérique centrale et au Mexique même, sûrement au 19e siècle. Mais jamais ils n'avaient attaqué un pays sud-américain, par ailleurs aussi caribéen dans le cas vénézuélien. Mmh. Ils avaient appuyé le coup d'état de Pinochet contre Allende, mais ils n'étaient pas militairement présents. Mmh. Là, ils ont bombardé un pays sud-américain, c'est la première fois. Pour l'Amérique latine, c'est un choc. Pour les Vénézuéliens aussi, parce que je pense que pour l'instant, ils sont en train de découvrir aussi les dégâts. On découvre des dizaines de morts pour une opération qui devait être chirurgicale, propre et sans bavure. Il y a des dizaines de morts. On attend de voir tout ça. Alors, pour revenir
et donc le pouvoir, en fait.
Oui, voilà. Alors, au niveau du pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, le pouvoir a été décapité, puisque quoi qu'on pense de Maduro, de sa légitimité, fonctionnellement, c'était le chef de l'État, de l'administration, de l'organisation, de l'armée, etc., etc. Donc, l'État a été décapité à sa tête avec l'opération. Et qu'est-ce qu'essayent de faire les dirigeants vénézuéliens, le pouvoir vénézuélien, la structure du pouvoir vénézuélien, dont je rappelle ici que c'est un pouvoir qui est civilo-militaire. C'est-à-dire qu'au Venezuela, c'est l'armée qui dirige le pays avec des civils et un parti politique. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour eux, l'important, c'est de montrer la continuité de l'État bolivarien. En fait, la transition avec Madame Rodriguez est inscrite dans la constitution bolivarienne, la constitution vénézuélienne. Elle est là pour 3 mois, renouvelable 3 mois si l'Assemblée nationale vote cette reconduction. Mais eux refusent de déclarer le président hors-jeu, parce que sinon, il faudrait des élections.
Et lui vient de dire, d'ailleurs, je suis toujours le président de mon pays, ce qui dit quelque chose devant le tribunal.
Exactement,
devant
c'est le tribunal, fait pour ça. C'est la continuité de l'État qui doit prévaloir au Venezuela. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir, moi je n'en sais rien, on va voir dans les prochains jours, il y a plusieurs scénarios. Ou bien ils arrivent à conserver d'abord une unité de la direction du pouvoir face à Donald Trump, qui les met sous une pression extraordinaire. Mmh. Ils arrivent à conserver cette unité. Sur quelle base ? Bah, ça va être de décider s'ils acceptent ou pas de collaborer avec les Américains. Collaborer pourquoi ? À partir de la feuille de route qu'a posé Trump et Rubio, c'est on vous tolère au pouvoir quelque temps encore, vous gardez les pouvoirs régaliens de votre État, on vous les laisse, et progressivement vous nous montrez des preuves de votre capacité à collaborer avec nous. On veut qu'il n'y ait plus de Cubains au Venezuela. On veut que vous arrêtiez les migrants. On veut que vous luttiez contre les cartels à notre façon, et on veut que vous nettoyiez votre frontière avec la Colombie des guérillas colombiennes.
Et en même temps, Christophe Ventura, dans l'autre sens, est-ce que les Américains ont réellement l'intention, les moyens, l'envie, l'ambition de gouverner réellement par eux-mêmes ? C'est-à-dire, si cet intérim-là se passe mal, est-ce qu'on imagine quand même qu'ils font débouler des soldats à pied pour que les choses se passent exactement telles qu'ils l'ont prévu. Est-ce qu'il, lui, Trump, dit à la vice-présidente Adelcy Rodriguez, vous n'avez pas le choix, mais est-ce qu'on ne peut pas lui retourner à lui aussi ? Vous non plus, vous n'avez pas le choix, vous ferez avec nous ou vous ne ferez pas, en fait, non ?
Alors, il a beaucoup d'atouts, Trump, dans sa manche. Je pense qu'il ne sait pas exactement, forcément, à l'heure où on se parle, jusqu'où il est prêt à aller, mais il se met en place tous les dispositifs qui lui permettent de faire ce qu'il aura envie de faire au moment où il aura envie de le faire. Si Trump a dit que s'il fallait revenir au Venezuela militairement, qu'il y ait une deuxième vague militaire et que Mme Rodriguez connaisse un sort pire que celui de Maduro, puisque c'est ce qu'il a dit, il le fera. Maintenant, il a des atouts. Quels sont les atouts américains ? C'est l'attaque qu'on a vue, mais c'est aussi le blocus maritime et les sanctions sur le Venezuela. Ce que pensent avoir les Américains, c'est une sorte de corde qui est autour du cou du Venezuela et qu'ils peuvent serrer à tout moment, parce que plus rien ne sort ou ne rentre du Venezuela sans que ça passe par les bateaux américains. Donc ils pensent qu'ils peuvent comme cela obtenir du gouvernement ce qu'ils veulent dans un premier temps. Et j'ai oublié tout à l'heure, bien sûr, de citer le pétrole,
qui est quand même
au milieu de la pièce. Et si vous voulez, ils ont quand même des limites. Quelles sont ces limites ? Et s'ils sont dans cette tentative d'un deal avec le pouvoir en place, c'est parce qu'ils n'ont pas de direction de rechange sur place.
Bien sûr.
Ils n'ont pas d'opposition fonctionnelle pour prendre le pouvoir. Il ne fait pas confiance à Mme Machado. Il l'a disqualifiée publiquement devant l'éternité. Et donc, il est aussi pris par ça. C'est que sinon, si ça ne marche pas avec eux, d'ailleurs, c'est le chaos.
Donc lui aussi n'a pas le choix. Vous avez cité l'armée et effectivement, Christophe Ventura, le pouvoir vénézuélien, il est civil et il est aussi militaire. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on n'a pas du tout vu l'armée ce week-end ? Est-ce que ça a un sens de poser cette question-là ? Parce que le déséquilibre entre l'armée de l'un et l'armée de l'autre, on l'entend aussi. Et est-ce que le danger ne vient pas de là ? Est-ce que l'armée elle-même peut décider de prendre la main ? Est-ce que même influencée par les États-Unis, elle peut avoir un blanc-seing pour prendre la main ? Est-ce que c'est ça le scénario catastrophe ?
Ça fait partie des scénarios. Tout ça, c'est possible. Tout à l'heure, on a cité le premier, c'est Mme Rodriguez arrive à conserver l'unité de cette direction politique de cet État.
Et pardon, elle le conserve parce qu'elle aime le pouvoir ou parce qu'elle veut maintenir l'esprit bolivarien, on va dire, à la tête de.
On ne peut pas être sûr que les deux soient vrais en même temps. On ne peut pas être à la place où elle est si on n'aime pas le pouvoir. Et elle se sent manifestement liée à l'héritage de la révolution bolivarienne, etc. Donc elle est l'une des pièces depuis longtemps.
Voilà, si ça se trouve, elle a facilité, ça fait aussi partie de l'équation aujourd'hui. Si elle a facilité, elle est bien
là où elle
se trouve.
Mme Rodriguez a une longue trajectoire dans la vie politique vénézuélienne avec des hauts et des bas. À l'époque de Chavez, elle n'était pas très en cours. À l'époque d'Hugo Chavez, elle est venue plutôt en cours à la fin et surtout avec M. Maduro. C'est elle qui menait les discussions avec l'administration américaine, avec Marco Rubio, justement toutes ces négociations un peu sous le manteau qu'on ne voyait pas pour peut-être réfléchir à une transition, etc. C'était elle qui était à la manœuvre. Elle connaît les Américains, elle parle avec Marco Rubio, ça c'est sûr. Est-ce que dans l'opération qui a donc abouti à l'enlèvement du président Maduro, est-ce qu'il y a eu des trahisons, des complicités ? Moi j'en sais rien, on le saura plus tard. C'est vrai que la facilité de l'opération et la percée militaire est stupéfiante, mais vous avez dit quelque chose qui est juste. Attention, il faut comprendre que rien ne peut arrêter les Américains. Ils ont la force suprême militairement et les Vénézuéliens n'ont aucun moyen de résister à cela. Ils ont quand même, d'après les autorités vénézuéliennes, tué 32 soldats qui ont essayé de résister, ils sont fait liquider en 2 minutes. Donc, si vous voulez, je pense que tout ça, on le saura un peu plus tard. Mais il est clair aujourd'hui que Mme Rodriguez essaye d'ouvrir un chemin qui est de fait, si vous voulez, de trouver quelque chose qui, de manière opérationnelle, permette de ne pas envenimer les relations avec Washington, si c'est possible.
Vous avez parlé de la sidération des Vénézuéliens, de toute façon, quel que soit le bord qui est le leur, en fait. Mais néanmoins, maintenant que les choses vont commencer doucement à se digérer, qu'est-ce qu'il dit, le peuple vénézuélien ? Est-ce qu'il y voit aussi une fenêtre? Enfin, il faut rappeler historiquement les élections de 2024, il les a perdues, Maduro. C'était des élections trichées, vous l'avez redit aussi, l'opposition, et on ne sait pas si elle est en mesure pour l'instant éventuellement de diriger ce pays. Donc qu'est-ce qu'ils disent, les Vénézuéliens? Est-ce qu'ils ne font que subir et on ne sait pas s'ils pourront à un moment ne pas subir?
Alors effectivement, ce qui a accéléré la fin de ce processus, c'est l'élection contestée de 2024. Mmh. Alors que pensent les Vénézuéliens? C'est toujours compliqué de dire que pense une population, certes, surtout à Paris. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'essentiel des Vénézuéliens sont épuisés de cette crise politique qui dure depuis 10 ans et qui a mis à genoux le Venezuela sur le plan économique, financier, avec tous les gens qui sont partis, etc. Je pense que ce qui domine au Venezuela, c'est qu'il n'y a plus d'adhésion réellement, ni aux dirigeants officiels, ni à l'opposition. C'est ça la réalité. Ensuite, pour les gens qui sont plus politisés, pour les camps politiques en question, la polarisation est très sévère. Vous avez le chavisme qui veut garder le pouvoir et vous avez une opposition qui est dominée par Madame Machado, parce qu'elle a beaucoup de relais internationaux, mais en interne,
Machado,
elle est divisée,
de la paix, donc voilà, tout récemment, ouais.
Et elle réclamait l'ingérence et l'intervention militaire américaine. Donc de ce point de vue-là, elle a été exaucée, mais elle n'en touche pas les dividendes.
Absolument.
Donc Trump les amis
pas,
comme les partenaires, comme les adversaires, c'est la même chose. Et donc une partie de l'opposition n'est pas sur la ligne de Madame Machado, veut en finir avec le madurisme et le chavisme, mais par une solution vénézuélienne négocier sans ingérence étrangère. Donc elle n'avait pas l'unanimité. Et donc les camps, ils sont partagés comme ça. Je pense que ce qui domine aujourd'hui, c'est un état de confusion pour les Vénézuéliens. Ils aimeraient retrouver une vie normale. Ils aimeraient que ce pays sorte de l'ornière où il est. Mais je pense que certains sont contents que Maduro n'est plus là. Mais d'autres sont, les mêmes peut-être, sont pas forcément ravis que ça se soit fait avec des bombes américaines et Trump qui les menace de nouveau.
Et encore une fois, c'est pas eux qui toucheront de toute façon potentiellement les dividendes du pétrole qui, vous l'avez dit, sont au milieu de cette histoire-là. Est-ce qu'on peut imaginer des États-Unis qui barricadent les puits, tout simplement, et qui s'occupent du pétrole en étant parfaitement indifférent de ce qui se passe pour les Vénézuéliens. En fait.
Alors, ce serait un scénario radical, mais on ne peut pas l'exclure du tout, celui que vous décrivez. Dans un premier temps, ils pensent pouvoir arriver à leur fin en décidant de si le pétrole vénézuélien peut ou pas sortir du pays. Voilà. Et à qui va? Parce qu'aujourd'hui, le pétrole vénézuélien, il va à 80% à la Chine. Et donc, c'est ça qu'ils veulent arrêter. Vous savez, Marco Rubio l'a dit très clairement. Pourquoi une partie de la réponse à l'équation vénézuélienne, c'est qu'ils ne veulent plus que le Venezuela exporte son pétrole à la Chine.
80% à la Chine, 17% seulement aux États-Unis au final. Mais dans quel état il est, ce pétrole, en fait? Parce qu'il a beau dire, Donald Trump, allez-y, venez investir. Mais ça veut dire investir combien? Si on extrait si peu au Venezuela, c'est aussi parce que les infrastructures sont à terre.
Oui, alors il y a des chiffres qui circulent. On estime qu'il faudrait 100 milliards de dollars.
Il ne suffit pas d'ouvrir le robinet, c'est ça que je veux dire.
Alors, il tourne encore, puisqu'il sortait encore un million de barils, les Vénézuéliens, dans toutes les conditions qu'on se raconte là, malgré la détérioration, le Venezuela sortait encore un million de barils il n'y a pas très longtemps. Avant, il en sortait plutôt 2,5-3 dans les belles années. Donc ça tourne encore un peu, mais c'est vétuste. Et donc, on estime, il y a des estimations à 100 milliards de dollars, ce qu'il faudrait comme investissement pour relancer, en fait, non pas en 6 mois, mais c'est sur des années, une production pétrolière énorme. Si les États-Unis prenaient en main le 100% du pétrole vénézuélien, ils contrôleraient à eux seuls 40 à 50% de la production mondiale, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Trump dit ça? Ça veut dire qu'en fait, il veut voir si le pouvoir actuel lui laisse la possibilité de revenir avec toutes les entreprises américaines et qu'elles puissent avoir les concessions en priorité et qu'elles puissent être même remboursées, parce qu'il estime que certaines sociétés comme Exxon ou d'autres à l'époque de Chavez ont été maltraitées par les pouvoirs vénézuéliens. Et si ça s'enclenche, il y aura une coopération opérationnelle. Si ça s'enclenche pas, eh bien on aura peut-être l'étape d'après qui sera de nouveau une intervention militaire pour prendre les puits, comme vous dites. Mais bon, on n'en est pas encore là.
On n'en est pas là, mais ça vous donnera l'occasion de revenir. Je suis persuadée qu'on aura d'autres occasions d'en parler, de ce Venezuela et aussi de tout ce qui se passe autour. On y reviendra d'ailleurs ensemble, nous, en deuxième heure, au téléphone sonne. Christophe Ventura, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. On reste sur le sujet avec vous, Frédéric Saï, c'est le monde à l'endroit.
Oui, sur le Venezuela, pourquoi les réactions européennes sont à ce point ambiguës.
Et c'est juste après ça. I know. Robert Finley, qui est dans la playlist d'Inter avec Helping Hands. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Et donc on poursuit cette conversation que nous venons d'avoir, Frédéric Saïs, avec cette question après l'opération américaine au Venezuela. Les réactions ambiguës des pays européens.
Oui, si vous êtes prof de français et que vous voulez faire travailler vos élèves sur les figures de style, en particulier sur l'oxymore, alors pas besoin de manuel scolaire, il suffit de lire les communiqués européens. Tout ce week-end, les diplomates ont surutilisé cette figure de style, l'oxymore, qui consiste à associer deux termes opposés entre eux, par exemple silence assourdissant ou obscure clarté. Là, en l'occurrence, il s'agissait de saluer à la fois la chute de Nicolas Maduro, tout en soulignant que le droit international avait été bafoué par l'opération américaine. Une sorte de « en même temps puissance 10 ». Dès samedi matin, la représentante de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, écrit ceci « L'Europe a toujours souligné le manque de légitimité de Nicolas Maduro », première phrase. Puis, phrase suivante, je cite « En toutes circonstances, le principe du droit international doit être respecté ». Résultat, à la fin de ce communiqué, on n'a toujours pas compris si l'Europe approuve ou désapprouve la capture de Nicolas Maduro.
Alors ça, c'est pour l'Union européenne, Frédéric, mais est-ce que les États européens ont été plus clairs ?
Eh bien, pas forcément, Alex. Exception de l'Espagne, qui a clairement dénoncé l'opération américaine, et de l'Italie, qui au contraire l'a publiquement soutenue. Tous les autres ont tenté cet entre-deux, la chèvre et le chou, en prenant bien soin d'ailleurs de ne pas fâcher l'encombrant allié américain. Les États-Unis ne sont jamais nommés dans les communiqués européens, pas plus que Donald Trump. Manifestement, c'est l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. La palme de l'ambiguïté revient sans doute à l'Allemagne et à la France. Berlin et Paris ont choisi une méthode particulière. D'un côté, les leaders Friedrich Merz et Emmanuel Macron se sont chacun bruyamment réjouis de la chute de Nicolas Maduro. De l'autre côté, leur ministres des Affaires étrangères ont rappelé l'attachement inébranlable au droit international, une répartition des rôles qui brouille encore un peu plus le message des Européens face à cet événement historique.
Alors comment on l'explique cette frilosité des Européens ?
Ils redoutent que toute opposition à Donald Trump se mue en confrontation et que toute confrontation se transforme en escalade. C'est déjà pour cette raison que l'Union Européenne avait plié le genou cet été, souvenez-vous, face au droit de douane imposé par les États-Unis. Une majorité d'États européens considère qu'il vaut mieux payer 15% de surtaxes que de se brouiller avec Washington. Encore ces jours-ci, les menaces de Donald Trump sur le Groenland, territoire danois et donc européen, n'ont pas suscité d'électrochoc. L'Europe est historiquement accoutumée à voir les États-Unis comme l'allié indéfectible, en particulier dans les pays de l'Est qui, après des décennies d'oppression soviétique, se sont tournés avec enthousiasme vers Washington. Le réveil est difficile. Mais la raison principale de cette frilosité se trouve encore plus à l'Est, l'Ukraine. Demain, la coalition des volontaires se réunit à l'Élysée, une trentaine de pays alliés de Kiev. Autour de la table, cette fois-ci, les émissaires de Donald Trump. Les négociations s'accélèrent, notamment sur les garanties de sécurité. Alors les Européens craignent par-dessus tout de se mettre à dos Washington maintenant. Les États-Unis, la seule puissance réellement dissuasive face à Vladimir Poutine. Une question cependant, en croyant jouer l'apaisement, l'Europe ne joue-t-elle pas plutôt la faiblesse? Tenez l'été dernier pour justifier sa capitulation sur les droits de douane. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a mis en avant un argument. Cet accord avec Donald Trump, disait-elle, il apporte de la stabilité et de la prévisibilité. Stabilité et prévisibilité dans la même phrase que Donald Trump, voilà un autre exemple d'oxymore.
Merci beaucoup Frédéric Seyss. À demain, le reportage.
Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Écosse ce soir où 1017 personnes sont mortes d'overdose en 2024. À titre de comparaison, en France, le dernier chiffre dont on dispose date de 2022 et c'était 638. Il y a plus de morts à cause de la drogue en Écosse que dans le reste de la Grande-Bretagne et plus aussi que de n'importe quel pays d'Europe. Ces chiffres en constante augmentation depuis 40 ans sont cette année en légère baisse, mais il reste très alarmant. Et le reste, c'est Thomas Harms qui raconte.
Yann est depuis 5 mois en centre de réhabilitation à Glasgow. Cette ville, avec celle de Dundee, est l'épicentre des décès dus à la drogue.
J'ai perdu 7 copains qui étaient à l'école avec moi, à cause du Valium contrefait. Ils sont 6 pieds sous terre maintenant. C'est horrible ce truc.
Les décès proviennent de l'héroïne, de la cocaïne, qui est devenue plus abordable, mais aussi de la méthadone ou de benzodiazépine. Ce sont des médicaments psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs de la famille du Valium et du Xanax. Le tout combiné avec de l'alcool.
C'est vraiment de 2014-2015 à 2020 qu'on a connu un pic des morts de la drogue.
Le professeur Andrew McCauley travaille depuis 20 ans sur les addictions à l'université de Glasgow. Il fait partie du groupe de supervision de la mission nationale sur les drogues pour conseiller le gouvernement écossais en la matière.
C'est à ce moment qu'on a commencé à voir des changements dans le marché de la drogue en Écosse, avec l'arrivée de substances plus complexes et plus toxiques dans la rue. À côté de l'héroïne, beaucoup de gens se sont mis à la cocaïne. Peut-être que le changement le plus marquant concerne la consommation de benzodiazépines. On est passé de celles prescrites par un médecin à un produit fabriqué illégalement, que l'on appelle benzodiazépine de rue, qui est beaucoup moins cher, mais beaucoup plus toxique qu'avant.
En Écosse, la surconsommation de drogue, les mélanges et les overdoses ont causé 10 000 morts ces 10 dernières années. Le professeur Andrew McCauley.
En Écosse, cette crise n'a été déclarée urgence sanitaire que ces dernières années, et ce n'est qu'à ce moment-là que des financements ont été alloués. On a été très lent à répondre au problème. L'autre facteur pour réduire le nombre de morts, c'est de donner accès aux traitements médicaux. Et pendant une longue période, seulement 40% de la population écossaise à risque avait accès à un traitement. Alors que dans des pays comme la France, le taux de personnes suivies ou sous médication est beaucoup plus élevé.
Ce fléau qui, avant, touchait surtout les hommes, frappe de plus en plus de femmes et devient un problème multigénérationnel avec des enfants qui voient leurs parents se droguer. Et ce fléau frappe surtout les plus pauvres. Kirsten Hogsberg est la directrice générale de l'ONG Scottish Drugs Forum.
Les gens sont exposés à des risques considérablement accrus parce qu'ils n'ont pas accès au traitement qui les protégerait d'une overdose. Il y a aussi leurs mauvaises conditions physiques, difficultés respiratoires, problèmes cardiaques et d'autres soucis de santé qui ne sont pas traités à cause de la stigmatisation à laquelle ces personnes sont confrontées.
Depuis 5 ans, l'Écosse a lancé une mission nationale sur les drogues. Cela a permis plus d'accès aux médicaments de substitution et le financement de cures de désintoxication. Mais cette mission nationale du gouvernement écossais prend fin cette année, en 2026. Et les objectifs ne sont pas atteints. Le nombre de décès en Écosse est toujours le plus élevé d'Europe. Kirsten Horsberg.
Les progrès n'ont pas été suffisamment rapides. Donc on a vu beaucoup de petits projets, de petites avancées, mais la réalité, c'est que les financements n'ont pas été suffisants et que tout est allé trop lentement. Donc si on décrit les morts par overdose comme une urgence sanitaire, alors la réponse n'a pas été à la hauteur de cet enjeu.
Alors pourquoi le sujet n'est-il pas une priorité de l'agenda politique ? Kirsten Hosberg a son idée.
Historiquement, les consommateurs de drogue ne font pas gagner les élections.
En d'autres termes, cette population ne vote pas. Or, les élections législatives en Écosse ont lieu dans quelques mois, en mai prochain. Donc la question des décès dus aux drogues, peu vendeuse auprès de l'électorat, et mise entre parenthèses.
Thomas Arms pour le reportage. Thomas, merci, à très vite. La suite ce soir dans Un jour dans le monde, c'est d'abord ce que vous avez déniché sous les radars, Guillaume Audin.
Oui, sous les radars au Malawi, où des archéologues ont découvert un crématorium préhistorique.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
La K-pop à la reconquête du marché chinois après 10 ans d'interdiction.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète passe d'abord par le Mali avec Fatoumata Diawara. Enterini, ça date de 2018 et c'est le choix de Djouba Guéa ce soir. Yolo jana ale masonzima Njarabi tala yolo jana ale masonzima Nderini nderini ngabedisa Njarabi ma pega nyalo nyala Nderini I want to know Diawara, Enterini sur France Inter. Et qu'est-ce qui se passe sous les radars de l'actualité internationale? Et ben c'est Guillaume Audard qui a la réponse.
The sinking diamond prices has Botswana, one of the world's largest producers by value.
Guillaume, direction de Botswana d'abord, dont l'économie est ultra dépendante du diamant. Sauf que ces temps-ci, le marché est en berne et ça force le pays à changer de cap.
Il y a des signes qui ne trompent pas. Le Botswana se prépare à ouvrir une ambassade, où cela ? À Moscou. Et ça, c'est un virage qui n'a rien d'anecdotique, fragilisé par la chute des cours. Ce pays d'Afrique australe se cherche des partenaires hors du giron occidental. Il invite le Kremlin à investir dans son industrie diamantifère. Ses terres rares, quelques chiffres pour comprendre. Le diamant, c'est environ un tiers du PIB du Botswana. 70 à 80% de ses recettes à l'export. Et si l'on se réfère à la seule qualité de ses pierres brutes, le Botswana se classe au premier rang des pays producteurs, devant qui, je vous le donne en mille, devant la Russie, qui en retour dispose d'une très grande expertise en extraction, raffinage de diamants. Ces deux nations avaient donc toutes les raisons de s'entendre. Pour Moscou, voilà une occasion en or, et ben non, en diamant, d'accroître son influence sur le continent noir aux dépens de l'Occident.
Tensions have been simmering across Yemen. and dramatic new developments in the eastern governorates are turning up the heat.
C'est Antonio Guterres qui parle, le secrétaire général des Nations Unies. Il alerte sur la dégradation express de la situation au Yémen.
Voilà, droit de suite et rappel des épisodes précédents. On en avait parlé ici avant les vacances. Tenter là aussi d'accroître leur influence, mais cette fois-ci tout autour du golfe d'Aden. Les Émirats arabes unis ont largement soutenu ces dernières semaines l'un des groupes armés du Yémen, lequel s'est emparé en un éclair de tout le sud du pays qui ouvre sur la mer, sauf que l'Arabie Saoudite, qui intervient également sur place et qui s'oppose à la partition du pays, ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Mardi dernier, Riyad a bombardé une cargaison d'armes livrée par Abu Dhabi et contraint les Émirats de retirer leurs troupes du pays. Résultat, aujourd'hui, aucune des factions soutenues par l'une ou l'autre des monarchies pétrolières n'a les moyens de s'imposer. Émiratis et Saoudiens exacerbent comme jamais leur rivalité sur le terrain yéménite, tandis que les Houthis, soutenus par Téhéran et qui contrôlent déjà la capitale, se frottent les mains. Pendant ce temps-là, le Yémen, 34 millions d'habitants, s'enfonce toujours plus dans le chaos.
Archaeologists have uncovered a 9,500-year-old.
Nous sommes enfin au Malawi avec la découverte d'un bûcher funéraire vieux de 9500 ans et qui bouscule la préhistoire.
Et la connaissance des rites mortuaires. On sait que l'être humain enterre ses morts depuis 100 à 120 000 ans environ. C'est une pratique ancestrale. Pour ce qui concerne les premières crémations avérées, c'est-à-dire brûler ses anciens, elles remontent à 20-30 000 ans en Europe. Mais les traces sont rares et même ambiguës, disent les archéologues. Ça n'est pas du tout le cas de cette découverte au Malawi. On a retrouvé dans ce bûcher funéraire des restes d'adultes, une femme, des os déplacés, des fragments prélevés, mais surtout aucune trace de violence. Au contraire, tout atteste d'un rituel et d'un feu maîtrisé. Alors pourquoi cette découverte est fondamentale? D'abord parce que ce crématorium préhistorique, si je puis dire, est africain et non européen. Il bat en brèche l'idée que les chasseurs-cueilleurs formaient des sociétés simples, voire simplistes. Et ce que ça raconte, c'est que l'espèce humaine a pensé très tôt la mort comme un acte collectif et symbolique, le feu étant l'un des langages du grand voyage.
Merci beaucoup, Guillaume Oda. À demain, le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter. 18-20.
La BO du monde qui nous entraîne entre Séoul et Pékin ce soir. Cyril, l'année 2026 verra-t-elle le retour de la K-pop en Chine? Les fans chinois l'espèrent, l'industrie musicale coréenne y travaille. Et signe de l'importance du dossier, il figure au milieu des discussions entre les dirigeants des deux pays.
Oui, le président sud-coréen Lee Jae-myung a prévu de mettre le sujet sur la table cette semaine à l'occasion de sa première visite officielle en Chine. Après un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue chinois Xi Jinping, des discussions commerciales sont prévues dès demain et il n'y aura pas que les patrons de Samsung et Hyundai autour de la table. Les poids lourds de l'industrie coréenne de la K-pop sont à la manœuvre. Leurs dirigeants étaient déjà à Pékin il y a quelques semaines pour plaider leur cause. Objectif, reconquérir le marché chinois qui leur est quasiment fermé depuis 10 ans. Pourquoi ? Ben parce que depuis 2016, la Chine impose des restrictions sur les produits culturels coréens en représailles à l'installation de missiles américains dans la péninsule. Depuis 10 ans, la K-pop n'est donc plus la bienvenue en Chine, même si dans les faits, les stars du genre comme Blackpink ou BTS, pour ne citer que les plus connus, restent très très populaires auprès de la jeunesse chinoise.
Et pour les maisons de disques coréennes, Cyril, évidemment, l'enjeu économique est considérable.
Imaginez un peu l'immense marché qui leur tend les bras. La Chine représente déjà un quart des exportations de K-pop, malgré l'interdiction. Donc si les tournées reprennent, si les ventes de CD peuvent se généraliser, et avec elles, les produits dérivés, les objets en série limitée, on sait que c'est le véritable nerf de la guerre dans cette industrie très matérialiste, alors ce sera le jackpot, raison pour laquelle les labels coréens misent beaucoup sur une détente entre Pékin et Séoul.
멋지는 내가 만들어.
Premier signe encourageant, un concert caritatif annuel de K-pop, le Dream Concert, organisé cette année à Hong Kong, sera retransmis à la télévision chinoise. Ce sera début février, avec notamment à l'affiche ce chanteur, Taemin, une des stars actuelles de la K-pop, membre à l'origine du boys band SHINee. Précisons toutefois que le concert sera retransmis en différé. Eh ben oui, histoire d'éviter toute prise de parole embarrassante sur scène, pas question d'ouvrir les vannes et de laisser tout dire. Et ici, une autre vedette de la K-pop, la chanteuse du groupe Ivy, au cœur d'une polémique en Chine depuis quelques jours pour avoir déclaré dans cette vidéo que Hong Kong était, je cite, son pays préféré. Selon la presse sud-coréenne, les grands labels de K-pop ont passé le mot à leurs artistes et évité toute prise de parole politique, surtout dans un contexte régional tendu entre la Chine et le Japon. Autant éviter de fâcher Pékin si l'on veut s'ouvrir les portes du plus grand marché du monde.
On a fait le sujet, moi j'ai peur de m'être fait berner par une IA en fait. Chaque fois que j'écoute de la musique, Cyril Chauvageau, est-ce que vous pouvez me le signer que c'est de la musique?
Ah, c'est ça,
eh ben voilà, bravo. Allez, merci beaucoup, à lundi prochain.